En quoi la féodalité managériale s'apparente à la féodalité classique et en quoi elle s'en distingue ? Le quintile supérieur grossit et s'enrichit parce que la totalité de la valeur créée par les travailleurs des quintiles inférieurs, réellement productifs, est siphonnée par ceux d'en haut. Puisqu'elle dépouille tout le reste de la population, les classes supérieures doivent s'entourer de toujours plus d'agents de sécurité pour protéger le pognon volé. Kevin Carson. À la lumière du fonctionnement de la société féodale décrit au chapitre 2, tout ce qui précède paraît parfaitement logique. Je parlais alors de seigneur et de domestique au sens métaphorique. Mais dans le cas des banques, on peut se demander si la vérité ne dépasse pas la métaphore. Comme je l'ai souligné, la féodalité est fondamentalement un système de redistribution. D'un côté, paysans et artisans produisent des biens en toute autonomie. Les seigneurs, eux, siphonnent une part de cette production en vertu d'un ensemble complexe de règles juridiques et de traditions. Le terme technique que l'on m'a appris à l'université est « prélèvement juridico-politique direct ». Ensuite, ils entreprennent de redistribuer des portions de ce butin à leur propre personnel, larbin, guerrier, domestique. Ils en renvoient aussi une faible partie aux paysans et artisans en organisant des banquets et des fêtes, ainsi qu'à travers des faveurs ou cadeaux occasionnels. Dans un tel dispositif, parler d'une sphère politique et d'une sphère économique séparées n'a guère de sens, puisque les biens sont prélevés par des moyens politiques et distribués pour des motifs politiques. En réalité, ce n'est qu'avec les premiers frémissements du capitalisme industriel qu'on a commencé à concevoir l'économie comme un secteur d'activité humaine indépendant. Dans un système capitaliste, au sens classique du terme, c'est la gestion de la production qui génère des profits. Les patrons engagent des employés pour fabriquer, construire, réparer ou entretenir des choses et n'engrangent de bénéfices que si le total de leurs frais généraux, y compris ce qu'ils paient à leurs salariés et à leurs contractuels, est inférieur aux revenus qu'ils perçoivent de leurs clients ou usagers. Dans ces conditions, cela ne rime effectivement à rien d'embaucher des travailleurs dont vous n'avez pas besoin. Pour maximiser vos profits, vous chercherez plutôt à verser le moins d'argent possible au plus petit nombre de personnes possible. Sur un marché ultra compétitif, les entreprises lestées de salariés superflus ont peu de chances de rester à flot. Voilà pourquoi les libertariens doctrinaires, mais aussi les marxistes orthodoxes, répètent qu'il n'est pas possible que les jobs à la con saturent notre économie et qu'il s'agit forcément d'une illusion. En revanche, dans un système de type féodal, où les considérations politiques et économiques sont entremêlées, ce genre de comportement n'a rien d'aberrant. À l'image des vendeurs d'assurance-emprunteurs, les PPI, l'idée est de s'emparer d'un paquet de blé, qu'on le dérobe à des ennemis ou qu'on le prélève sur les roturiers au moyen de contributions, taxes, loyers et impôts de toutes sortes, puis de le redistribuer. Ce faisant, on se crée un cortège de fidèles qui permet non seulement d'étaler son faste et sa magnificence aux yeux de tous, mais aussi de prodiguer un certain nombre de faveurs politiques. Par exemple, en achetant les éventuels insatisfaits, en récompensant des alliés loyaux, les porte-flingues, ou en élaborant une classification compliquée d'honneurs et de titres pour lesquels les nobles de rang inférieur pourront se chamailler. Toute ressemblance avec le fonctionnement interne des grandes entreprises ne saurait être fortuite. Ces dernières ont en effet de moins en moins à voir avec la fabrication, la construction, la réparation ou l'entretien des choses, et de plus en plus avec les processus politiques par lesquels on s'approprie, on alloue et on répartit l'argent et les ressources. Le résultat est une confusion croissante entre le politique et l'économique, comme on a pu le voir avec l'émergence des banques trop grosses pour faire faillite, too big to fail, ces banques dont les lobbyistes rédigent eux-mêmes les lois par lesquelles les gouvernements sont censés les réguler. De plus, une grande partie des profits financiers sont désormais amassés par des procédés juridiques et politiques. Ainsi, en 2006, JP Morgan Chase & Co., la première banque américaine, annonçait qu'environ 2/3 de ses profits provenaient des commissions et pénalités facturées à ses clients. Quant à ce qu'on appelle la finance, cela ne désigne rien d'autre que l'ensemble des opérations consistant à s'échanger les dettes d'autres personnes. Des dettes qu'il faut naturellement rembourser, sous peine de devoir en répondre devant les tribunaux. Il n'existe aucun moyen de connaître la part exacte que prélève le secteur FIRE sur le revenu mensuel d'une famille moyenne américaine ou danoise ou japonaise. Cependant, tout laisse à penser qu'elle est considérable et représente aujourd'hui une proportion des profits totaux sensiblement supérieure à celle que les entreprises tirent directement de la fabrication ou de la vente de biens et de services dans ces mêmes pays. Il n'est pas jusqu'aux compagnies du cœur de notre ancien monde industriel, comme General Motors ou General Electric aux États-Unis, qui ne réalisent la quasi-totalité de leurs bénéfices grâce à leur branche financière. General Motors, par exemple, ne gagne plus d'argent en vendant des voitures, mais en percevant des intérêts sur ses crédits auto. Toutefois, un élément crucial distingue la féodalité médiévale de la version financiarisée actuelle. Le principe de l'autogouvernance dans chaque secteur de production que nous avons déjà évoqué. Au sein de la société féodale, dans n'importe quel métier reposant sur un savoir spécialisé, dentelier, charron, marchand ou même juriste, les travailleurs géraient collectivement leurs propres affaires avec une supervision extérieure minimale. Ils décidaient notamment qui était autorisé à intégrer la profession et comment seraient formés les nouveaux venus. Certes, les guildes et autres corporations comportaient souvent des hiérarchies internes complexes, pas aussi complexes qu'aujourd'hui toutefois. Ainsi, dans beaucoup d'universités médiévales, les étudiants élisaient leurs professeurs. Mais au moins, un forgeron ou un savonnier du Moyen Âge était assuré de pouvoir vaquer à ses activités sans qu'un type ne connaissant rien à la fabrication des épées ou à la confection des savons, vienne lui dire qu'il s'y prenait mal. Le capitalisme industriel a bouleversé tout cela avant que l'essor du managérialisme au XXe siècle ne pousse le processus encore plus loin. Et la situation n'a fait qu'empirer avec le développement du capitalisme financiarisé. L'efficacité en est venue à se traduire par un transfert croissant de pouvoir aux gestionnaires, superviseurs et autres prétendus experts de la rationalisation, privant les producteurs réels de toute autonomie. Parallèlement, les couches de supérieurs hiérarchiques semblent se multiplier à l'infini. Les aventures du site de fabrication des thés éléphants, désormais occupé par ses employés dans les environs de Marseille, offrent une parabole parfaite pour illustrer les transformations qu'a connues le capitalisme au cours des 4 dernières décennies. En 2014, à l'issue d'un conflit long de près de 4 ans, 58 salariés du site organisé en SCOP, Société Coopérative et Participative, ont relancé l'usine située à Gemnos dans les Bouches-du-Rhône. Depuis, ils commercialisent leur thé sous la marque 1336, un chiffre qui correspond au nombre de jours de lutte. Il y a quelques années, j'ai pu visiter l'usine avec des amis. Notre guide, un ouvrier qui avait été engagé dans le conflit, nous a expliqué toute l'histoire. À l'origine, les thés éléphants étaient une entreprise locale. Pendant l'ère des fusions et acquisitions, ils ont été rachetés par Unilever, maison mère de Lipton, le plus gros producteur mondial de thé. Dans un premier temps, les nouveaux propriétaires n'ont pas changé grand-chose à l'organisation de l'usine. Il faut dire que les ouvriers, habitués à bricoler les machines, avaient introduit de nombreuses améliorations grâce auxquelles la production s'était accrue de plus de 50% dans les années 1990. Les profits avaient naturellement suivi le même mouvement. Téléportons-nous brièvement dans les années 1950, 1960 ou même 1970. En ce temps-là, dans la majeure partie du monde industrialisé, un accord tacite voulait qu'une fraction des profits supplémentaires générés par une hausse de la productivité soit redistribuée aux travailleurs sous forme d'augmentation de salaire et d'avantages. Depuis les années 1980, ce n'est plus le cas, comme le raconte notre guide. Est-ce qu'on a vu la couleur de cet argent? Non. Est-ce qu'ils l'ont investi pour embaucher davantage d'ouvriers, renouveler les équipements, développer la production? Non plus. Qu'est-ce qu'ils en ont fait alors? Ils se sont mis à recruter de plus en plus de gens dans les bureaux. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait que deux cadres, le patron et le type des ressources humaines. C'était comme ça depuis des années. Là, tout d'un coup, on a commencé à voir 3, 4, bientôt 7 gars en costume se balader dans l'usine. La boîte leur inventait des titres pour faire joli, mais tous passaient leur temps à se demander à quoi ils pourraient bien s'occuper. Chaque jour, on les voyait déambuler le long des passerelles. Ils nous regardaient travailler en prenant des notes. Après, ils organisaient des réunions pour en discuter, puis ils rédigeaient des rapports. Mais ils n'arrivaient toujours pas à trouver ce qui aurait pu justifier leur présence. Finalement, l'un d'eux a eu une idée lumineuse. Pourquoi ne pas fermer l'usine, virer les ouvriers et délocaliser la production en Pologne? En règle générale, on prétend que l'embauche de gestionnaires vise à améliorer les rendements. Ici, il n'y avait quasiment rien à améliorer, puisque les travailleurs eux-mêmes avaient accru les rendements autant qu'il était possible de le faire. Peu importe, on a quand même embauché des gestionnaires. Cela montre bien qu'il n'était absolument pas question d'efficacité dans cette affaire. L'objectif, c'était de modifier la conception même de la responsabilité morale de l'entreprise. Ce qu'on appelle parfois l'entente keynésienne, cet accord tacite qui liait travailleurs, employeurs et gouvernements pendant les Trente Glorieuses, prévoyait notamment que les améliorations de la productivité du travail se traduiraient par des augmentations de rémunération. Une étude américaine comparant la productivité et le salaire horaire moyen entre 1947 et 2007 confirme que c'est bien ce qui s'est passé. Les deux courbes n'ont commencé à diverger que dans les années 1970. Celle des rémunérations est demeurée globalement stable, tandis que celle de la productivité est montée en flèche. Ces chiffres concernent les États-Unis, mais on observe des tendances similaires dans les autres pays industrialisés. Alors, que sont devenus les profits générés par ces hausses de productivité? La réponse s'étale sous nos yeux tous les jours. Une bonne partie est allée grossir la fortune du 1% le plus riche, les investisseurs, les dirigeants et les échelons les plus élevés de la classe des professions intellectuelles et cadres sup. D'accord. Mais si l'on regarde l'usine des thés éléphants comme un microcosme du monde de l'entreprise, on se rend compte que cela ne s'arrête pas là. Une part considérable de ces bénéfices a aussi servi à créer des emplois dans cette catégorie des professions intellectuelles et cadres sup. Il s'agit de ces postes inventés de toutes pièces, fondamentalement inutiles et généralement flanqués d'une armée de petites mains administratives, tout aussi inutiles comme l'a montré l'exemple des universités. Selon un processus désormais bien connu, on commence par embaucher du personnel et ensuite seulement quelqu'un s'efforce de trouver à l'occuper, si tant est qu'il y ait quelque chose à faire. Ainsi, l'analogie féodale n'est même pas une analogie à proprement parler. Le managérialisme a donné naissance à une nouvelle forme de féodalité. Une féodalité cachée dans laquelle les richesses et les positions sont allouées pour des motifs non pas économiques, mais politiques, ou plutôt dans laquelle il devient de jour en jour plus difficile de distinguer l'économique du politique. Le système féodal médiéval se caractérisait aussi par la construction de hiérarchies complexes pour les fonctionnaires et les nobles. En Europe, un souverain concédait des terres à un baron si ce dernier lui fournissait un certain nombre de chevaliers pour son armée. Le baron, à son tour, remettait une part de ses terres à un vassal local en vertu du même principe, et ainsi de suite jusqu'au châtelain. Ce processus de décentralisation est appelé sous-inféodation. Il est aussi responsable de l'infini raffinement des titres et des rangs que l'on trouve encore dans des pays comme l'Angleterre, duc, comte, vicomte, etc. En Inde et en Chine, le système était plus indirect, puisque la pratique la plus courante consistait à affecter les revenus d'un territoire ou d'une province aux fonctionnaires vivant dans la ville la plus proche. Mais cela a peu d'incidence pour le sujet qui nous occupe. J'énonce donc le principe général suivant. Dans tout système politico-économique, fondé davantage sur l'appropriation et la distribution de biens que sur leur fabrication, leur transport ou leur entretien, la population chargée d'administrer la circulation des ressources entre le sommet et la base s'organisera en hiérarchie complexe à multiples étages, au moins 3, mais parfois 10, 12 ou plus. Et son corollaire, au sein de ces hiérarchies, la frontière entre domestique et subordonné aura tendance à se brouiller, dans la mesure où la révérence à l'égard des supérieurs est souvent une composante essentielle de ces postes. Ainsi, les principaux acteurs du système seront à la fois seigneurs et vassaux.